parole du jour avec le Père Willem.
Y a-t-il un monde hors de notre portée, imperceptible pour nos sens? Le monde invisible nous est pourtant promis. Oui, un monde hors de notre portée. Contempler l'invisible, voir Dieu comme il est, c'est l'espérance de beaucoup. Nous cherchons à voir le monde parce que voir signifie connaître. Il y a à la fois de la curiosité et de la, disons, une protection. Chercher à savoir ce qui se cache derrière une porte, soit simplement pour le plaisir de savoir, soit parce que l'on pressent un danger. Oui. La science invente des instruments qui permettent de voir l'infiniment petit, l'infiniment grand, l'infiniment lointain. Par la vision, nous avons le sentiment de maîtriser ce qui nous entoure. Pour la Bible, Dieu est essentiellement invisible. On ne peut voir Dieu sans mourir, dit l'Exode au chapitre 33. La loi biblique condamne avec la plus grande vigueur toute idolâtrie, toute tentative de se faire une image de Dieu. Dieu est sans représentation, ajoutant tout de suite qu'il en va aussi de la personne humaine créée précisément à l'image de Dieu, à l'image de celui qui est sans image. Plus largement, tout ce qui se rapporte au divin est de l'ordre de l'invisible. C'est le cas de tous les êtres qui sont en communion avec Dieu. Ils constituent le monde invisible. Ce qui est divin est invisible, mais tout ce qui est invisible n'est pas nécessairement divin. Il peut exister des entités plus menaçantes, des puissances maléfiques que la tradition appelle les démons. Si elles se cachent, c'est qu'elles veulent pouvoir exercer leur emprise sur la création divine. Elles se dissimulent comme ceux qui tendent un piège. Comme l'écrit le psaume 10, l'impie se cache pour tuer l'innocent. Il se tient à l'affût pour mieux surprendre sa victime. Il l'épie, mais ne veut pas être vu. Devons-nous craindre ces puissances invisibles? Devons-nous les redouter? Saint Paul en parle dans plusieurs de ses lettres. Et Saint Paul, justement, nous permet de comprendre ce monde. Il faut relire ses épîtres, l'épître aux Romains en particulier. Et il nous promet, lui, Paul, que ces puissances disparaîtront, parce qu'elles sont déjà définitivement vaincues par le Christ, et dans le Christ qui a dépouillé les principautés, les puissances, et les a données en spectacle à la face du monde. Nous n'avons pas à redouter cette face sombre du monde invisible, car la ruse cachée des démons est dévoilée à la face du monde. Pour revenir au monde divin, il faut remarquer que l'invisibilité de Dieu est relative. Isaïe, le prophète, dit bien que Dieu est caché, mais il ne se cache pas à la manière des démons. D'ailleurs, au chapitre 6, le même prophète met en scène la gloire divine que les saints peuvent contempler. Selon la tradition chrétienne, après la mort, les saints bénéficient de la vision béatifique. Il voit Dieu tel qu'il est, il voit l'invisible, mais une certaine vision est déjà anticipée ici et maintenant. Et dans le Nouveau Testament, particulièrement l'évangile de Jean, insiste beaucoup sur la vision. Dans sa première épître, il écrit « Ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé du Verbe de vie, oui, le salut est dans la vision de Dieu tel qu'il est en lui-même. » Lorsqu'au début de sa prédication, Jésus affirme que le règne de Dieu s'est approché, c'est que ce monde invisible s'est rendu visible à nos yeux. La preuve en est que les aveugles voient. Par son incarnation dans une personne humaine, Dieu s'est fait voir aux hommes. Nul n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique l'a fait connaître. La tradition chrétienne autorise dans l'icône du Christ, qui n'est pas une idole, la représentation de Dieu, certes. Il n'empêche que la vision de Dieu reste paradoxale. La dernière manifestation largement visible de Jésus est tout simplement sa mort en croix. Le ressuscité se manifeste bien sûr, mais d'une manière beaucoup plus discrète. Il se révèle librement à celles et ceux qui sont prêts à le voir. Sur la croix, Dieu se manifeste dans son contraire. Est-ce qu'on pourrait dire cela? Le Tout-Puissant semble réduit à l'impuissance, le vivant connaît la mort. Et malgré ce paradoxe, la tradition chrétienne a retenu cette image comme la plus caractéristique. Ce sont des crucifix. Oui, des crucifix qui manifestent la présence de Dieu dans nos maisons, sur nos carrefours. Il ne s'agit pas là d'un beau spectacle, mais d'une invitation à voir plus loin que l'apparence. Le monde invisible, au sens de monde divin, du royaume de Dieu, n'est pas un autre monde qui n'aurait rien à voir avec celui que nous connaissons. C'est plutôt notre monde transfiguré, c'est notre monde tel que Dieu le voit, selon son dessein créateur, tel qu'il sera à la fin des temps, lorsque le mal et la mort qui défigurent la création seront définitivement vaincus. À certains égards, ce monde est bien hors de notre portée. Oui, car ce ne sont pas nos propres entreprises qui le construisent, ce monde. Il n'est pas comme l'idole, le résultat d'un travail de nos mains, le fruit de nos seuls efforts. C'est Dieu qui espère, c'est Dieu qui opère, et son espérance nous rejoint. Mais ce Dieu-là n'opère pas sans nous. Éclairés par la lumière de Dieu, nous pouvons contribuer à ce que vienne son règne et qu'il se rende visible à tous. Dans la Bible et chez les mystiques, il y a ce souffle poétique, les psaumes, les cantiques des cantiques, et cet élan de l'âme de François d'Assise, de Jean de la Croix ou Thérèse d'Avila, qui exprime l'indicible à l'invisible. Les mystiques et les poètes sont des interprètes imparfaits d'une présence qu'ils révèlent comme une empreinte cachée des fragments de lumière discrète. Ils nous permettent de capter par bribes la lumière du ciel, le royaume promis dont notre vie ici-bas est comme le prélude. Les mots sont comme des torches qui éclairent notre humble quotidien et nous aident à contempler et à entrer en communion avec cette vie que nous percevons, mais que nous ne voyons pas encore clairement. Tenter d'exprimer avec notre langage, si pauvre et limité, ce rien de Dieu, c'est vraiment le rôle indispensable du poète dans notre monde. Alors, chers auditeurs, chères auditrices, consentez à permettre au poète qui s'endort en vous à s'éveiller le matin pour qu'il chante la beauté du monde et s'émerveille de ce que vous êtes.